Chapitre 18. Le samedi à 4 heures, Thérèse vint, comme elle avait promis, à la porte du cimetière des Anglais. Elle trouva de Chartres devant la grille. Il était sérieux et troublé. Il parlait à peine. Elle fut contente qu'il ne montrât pas sa joie. Il la conduisit le long des murs, des airs, des jardins, jusqu'à une rue étroite qu'elle ne connaissait pas. Elle lut sur un écriteau « Via Alfieri ». Après avoir fait 50 pas, il s'arrêta devant une allée sombre. « C'est là, » dit-il. Elle le regarda avec une infinie tristesse. « Vous voulez que j'entre ?» Elle le vit résolu et le suivit sans rien dire dans l'ombre humide de l'allée. Il traversa une cour où l'herbe poussait entre les dalles. Au fond se levait un pavillon à 3 fenêtres avec des colonnes et d'un fronton orné de chèvres et de nymphes. Sur le perron moussu, il tourna dans la serrure une clé qui grinçait et résistait. Il murmura « Me l'ai rouillé ». Elle répondit, sans pensée, sans âme, « Mais toutes les clés sont rouillées dans ce pays-ci. » Ils montèrent dans l'escalier, si tranquille sous son bandeau grec, qu'il semblait avoir oublié le bruit des pas. Il poussa une porte et fit entrer Thérèse dans la chambre. Sans rien voir, elle alla droit à la fenêtre ouverte qui donnait sur le cimetière. Au-dessus du mur s'élevaient les cimes des pins, qui ne sont pas funèbres sur cette terre où le deuil se mêle à la joie sans la troubler, où la douceur de vivre s'étend jusqu'à l'herbe des morts. Il la prit par la main, il amena un fauteuil. Elle resta debout et regarda la chambre qu'il avait préparée pour qu'elle ne s'y trouvât pas trop perdue ni à l'aventure. Quelques laits de vieilles indiennes à figure de comédie mettaient sur les murs la tristesse aimable des gaietés passées. Il avait accroché dans un coin un pastel effacé qu'ils avaient vu ensemble chez l'antiquaire et que, pour sa grâce évanouie, elle appelait l'ombre de Rosalba. Un fauteuil d'aïeul, des chaises blanches, sur le guéridon des tasses peintes et des verres de Venise, à tous les angles des paravents de papier colorié, où l'on voyait des masques, des grotesques et des bergeries, l'âme légère de Florence, de Bologne et de Venise, au temps des grands-ducs et des derniers doges. Elle remarqua qu'il avait pris soin de cacher le lit derrière un de ses paravents à feuillets gaiement historiés. Une glace, des tapis, et c'était tout. Il n'avait pas osé davantage dans une ville où les brocanteurs ingénieux le suivaient à la piste. Il ferma la fenêtre et alluma le feu. Elle s'assit dans le fauteuil et, tandis qu'elle y restait toute droite, il s'agenouilla devant elle, lui prit les mains, les baisa et la regarda longtemps avec un émerveillement craintif et fier. Puis il posa, prosterné, ses lèvres sur le bout de la bottine. « Mais qu'est-ce que vous faites ? Je baise vos pieds qui sont venus. » Il se releva, la tira doucement à lui, et cherchant ses lèvres, il lui mit un long baiser sur la bouche. Elle restait inerte, la tête renversée, les yeux clos. Sa toque glissa, ses cheveux se répandirent. Elle se donna, sans plus rien défendre d'elle. 2 heures après, quand déjà le déclin du soleil allongeait démesurément les ombres sur les dalles, Thérèse, qui avait voulu marcher seule dans la ville, se trouva devant les 2 obélisques de Sainte-Marie-Nouvelle, sans savoir comment elle était venue jusque-là. Elle vit à l'angle de la place le vieux savetier qui tirait le lignol d'un geste éternel. Son moineau sur l'épaule, il souriait. Elle entra dans les chopes, s'assit sur l'escabeau. Et là, elle dit en français, « Quant à Madsys, mon ami, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais devenir ?» Il la regarda tranquillement, avec une bonté riante, sans comprendre ni s'inquiéter. Rien ne l'étonnait plus. Elle secoua la tête. « Ce que j'ai fait, mon bon Quentin, c'est parce qu'il souffrait et que je l'aimais. Je ne regrette rien. » Il répondit à son habitude par le « oui » sonore de l'Italie. « Si, si !» N'est-ce pas, Quentin, que je n'ai pas mal fait? Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant, mon Dieu? Elle allait partir. Il lui fit signe d'attendre un peu. Il cueillit avec soin un brin de basilic et le lui offrit. Pour le parfum, signora. Chapitre 19. C'était le lendemain. Ayant posé soigneusement sur la table du salon son bâton noueux, sa pipe et son antique sac de tapisserie, Choulette salua Madame Martin qui lisait à sa fenêtre. Il allait à Assise. Il s'était vêtu d'une casaque de proue de chèvre et il ressemblait au vieux berger des nativités. « Adieu, madame, je quitte Fiesole et vous, Chartres, le trop beau prince Albert Tinelli et cette gentille ogresse de Miss Belle. Je vais visiter la montagne d'Assise, qu'il faut, dit le poète, nommer non plus Assise, mais Orient, parce que c'est de là que s'est levé le soleil de l'amour. Je vais m'agenouiller devant la crypte heureuse au fond de laquelle saint François repose nu, dans une auberge de pierre, avec une pierre pour oreiller, car il ne voulut pas emporter, même un seul de ce monde où il laissait la révélation de toute joie et de toute bonté. Adieu, monsieur Choulette. Rapportez-moi une médaille de Sainte-Claire. J'aime beaucoup Sainte-Claire. Vous avez bien raison, madame. C'était une dame remplie de force et de prudence. Quand Saint-François, malade et presque aveugle, vint passer quelques jours à Saint-Damien, auprès de son ami, elle lui bâtit de ses mains une cabane dans le jardin, et il se réjouit. Une langueur douloureuse et la brûleur de ses paupières lui ôtaient le sommeil. Une troupe de rats énormes venait l'attaquer la nuit. Alors il composa un cantique plein d'allégresse pour bénir le splendide frère Soleil et notre sœur l'eau, chaste, utile et pure. Mes plus beaux vers, ceux même du jardin clos, ont moins de charme inévitable et de splendeur naturelle. Et il est juste qu'il en soit ainsi, parce que l'âme de saint François était plus belle que de la mienne. Meilleur que tous ceux de mes contemporains qu'il m'a été donné de connaître, moi je ne vaux rien. Quand François eut trouvé sa chanson du soleil, il fut très content. Il songea. Nous irons, mes frères et moi, dans les villes, nous nous tiendrons avec un luth sur la place publique le jour du marché. Les bonnes gens s'approcheront de nous et nous leur dirons « Nous sommes les jongleurs du bon Dieu et nous allons vous chanter un lait. Si vous en êtes contents, vous nous donnerez une récompense. Ils s'y engageront et, quand nous aurons chanté, nous leur rappellerons leurs promesses et nous leur dirons « Ah, vous nous devez une récompense et celle que nous vous demandons, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Sans doute pour que... Pour tenir leurs paroles et ne pas faire de tort aux pauvres jongleurs de Dieu, ils éviteront de nuire à autrui. Madame Martin trouvait que saint François était le plus aimable des saints. Son œuvre, reprit Choulette, fut détruite alors qu'il vivait encore. Pourtant, il mourut heureux, parce qu'il lui en était la joie avec l'humilité. Il était en effet le doux chanteur de Dieu. Et il convient qu'un autre pauvre poète reprenne sa tâche et enseigne au monde la vraie religion et la vraie joie. Eh bien, ce sera moi, madame, si toutefois je puis dépouiller la raison avec l'orgueil. Car toute beauté morale est accomplie en ce monde par cette sagesse inconcevable qui vient de Dieu et ressemble à la folie. Je ne vous découragerai pas, monsieur Choulette, mais je suis inquiète du sort que vous ferez aux pauvres femmes dans votre société nouvelle. Vous les enfermerez toutes dans des couvents ?
J'avoue, répondit Choulette,
qu'elle m'embarrasse beaucoup dans mon projet de réformation. La violence avec laquelle on les aime est âcre et mauvaise. Le plaisir qu'elle donne n'est point pacifique et ne conduit pas à la joie. J'ai commis pour elle, dans ma vie, deux ou trois crimes abominables qu'on ne connaît pas. Je doute que je vous invite jamais à souper, madame, dans la nouvelle Sainte-Marie des Anges. Il prit sa pipe, son sac de sapisserie et son bâton à tête humaine. Les fautes de l'amour seront pardonnées, ou plutôt, on ne fait rien de mal quand on aime seulement, mais l'amour sensuel est fait de haine, d'égoïsme et de colère autant que d'amour. Pour vous avoir trouvée belle un soir sur ce canapé, m'étais assaillé d'une nuée de pensées violentes. Je revenais de l'albergo où j'avais entendu le cuisinier de Miss Belle improviser magnifiquement 1200 vers sur le printemps. J'étais inondé d'une joie céleste que votre vue m'a fait perdre. Il faut qu'une vérité profonde soit renfermée dans la bénédiction d'Ève. Car près de vous, je suis devenu triste et mauvais. J'avais sur les lèvres de douces paroles. Elles mentaient. Je me sentais au-dedans de moi-même votre adversaire et votre ennemi. Je vous haïssais. Et en vous voyant sourire, j'ai eu envie de vous tuer.
Vraiment ?
Oh, madame, c'est un sentiment très naturel et que vous avez dû inspirer bien des fois. Mais le vulgaire l'éprouve sans en avoir conscience, tandis que mon imagination vive me représente sans cesse à moi-même. Je contemple mon âme, parfois splendide, souvent hideuse. Si vous l'aviez vue en face ce soir-là, oh, vous auriez crié d'épouvante. Thérèse sourit.
Adieu, monsieur Choulette, mais n'oubliez pas ma médaille de Sainte-Claire.
Il posa sa valise à terre, et levant le bras, l'index dressé, comme qui montre qui enseigne, « Oh, vous n'avez rien à craindre de moi, mais celui que vous aimerez qui vous aimera vous fera du mal. Adieu, madame. » Il reprit ses bagages et sortit. Elle vit sa longue forme rustique disparaître derrière les cydises du jardin. Dans l'après-midi, elle alla à San Marco où de Chartres l'attendait. Elle désirait et craignait de le revoir si tôt. Elle ressentait une angoisse qu'apaisait un sentiment inconnu d'une douceur profonde. Elle ne retrouvait pas la stupeur de la première fois qu'elle s'était donnée par amour, la vision brusque de l'irréparable. Elle était sous des influences plus lentes, plus vagues et plus puissantes. Cette fois, une rêverie charmante trempait le souvenir des caresses reçues et baignait la brûlure. Elle était abîmée de troubles et d'inquiétudes, mais elle n'éprouvait ni honte ni regret. Elle avait agi moins par sa volonté que par une force qu'elle devinait meilleure. Elle s'absolvait sur son désintéressement. Elle ne comptait sur rien, n'ayant rien calculé. Sans doute, elle avait eu le tort de se donner quand elle n'était pas libre, mais aussi n'avait-elle rien exigé. Peut-être n'était-elle pour lui qu'une fantaisie violente et sincère. Elle ne le connaissait pas. Elle n'avait pas fait l'épreuve de ces belles imaginations vives et flottantes qui passent de haut, pour le bien comme pour le mal, la médiocrité commune. S'il s'éloignait d'elle brusquement et disparaissait, elle ne le lui reprocherait pas, elle ne lui en voudrait pas. Du moins, elle le croyait. Elle garderait en elle le souvenir et l'empreinte de ce qu'on pouvait trouver au monde de plus rare et de plus précieux. Oui, il était peut-être incapable d'un attachement véritable. Il avait cru l'aimer. Il l'avait aimé une heure. Elle n'osait pas en souhaiter davantage. Dans l'embarras d'une situation fausse dont sa franchise et sa fierté s'irritaient et qui troublait la lucidité de son intelligence. Pendant que le fiacre l'emportait à San Marco, elle parvint à se persuader qu'il ne lui dirait rien de ce qu'elle avait été pour lui la veille et que le souvenir de la chambre amoureuse, d'où l'on voyait s'élever dans le ciel les fuseaux noirs des pins,
ne laisserait à l'un et à l'autre que le rêve d'un rêve. Il lui tendit la main devant le marchepied. Avant qu'il eût parlé, elle vit dans son regard qu'il l'aimait et qu'il la demandait encore. Elle s'aperçut en même temps qu'elle le voulait aussi. « Vous, dit-il, vous, toi, oh, je suis là depuis midi, j'attendais, sachant que vous ne viendriez pas encore, mais ne pouvant vivre qu'à la place où je devais vous voir. C'est vous, oh, parlez, que je vous vois, que je vous entende. Et vous m'aimez donc encore? Mais c'est maintenant que je t'aime. Je croyais vous aimer quand vous n'étiez qu'un fantôme chargé de mes désirs. Maintenant tu es la chair où j'ai mis mon âme. C'est vrai, dites, c'est vrai que vous êtes à moi. Et qu'ai-je donc fait pour obtenir le plus grand, l'unique bien de ce monde? Et ces hommes dont la terre est couverte, ils croient vivre. Mais moi seul je vis, dis, qu'ai-je fait pour t'obtenir? Oh, ce qu'il fallait faire, c'est bien moi qui l'ai fait. Je vous le dis franchement. Si nous en sommes venus là, c'est ma faute. Voyez-vous, elle ne l'avoue pas toujours, mais c'est toujours la faute des femmes. Aussi, quoi qu'il arrive, je ne vous ferai pas de reproche. Une troupe agile et criarde de mendiants, de guides, de proxénètes, détachés du porche, les entourait avec une importunité où se mêlait encore une certaine grâce que ne perdent jamais les légers italiens. Leur subtilité leur faisait deviner des amoureux, et ils savaient que les amoureux sont prodigues. De Chartres leur jeta quelques pièces d'argent, et tous retournèrent à leur paresse heureuse. Un gardien municipal accueillit les visiteurs. Madame Martin regrettait de ne pas trouver un moine. La robe blanche des Dominicains était si belle à Santa Maria Novella, sous les arcades du cloître. Ils visitèrent les cellules où, sur la chaux nue, Frangelico, aidé de son frère Bernadetto, peignit pour les religieux, ses compagnons, des peintures innocentes. Vous rappelez-vous le soir d'hiver où, vous rencontrant sur un pont de chèvre qui franchissait une franchée devant le musée Guimet, je vous ai accompagné jusqu'à cette petite rue bordée de jardinets qui mène au Calbilly? Avant de nous séparer, nous sommes arrêtés un moment au bord du parapet sur lequel court un maigre rideau de bruit. Vous avez regardé ce buis desséché par l'hiver. Et quand vous êtes parti, je l'ai regardé longtemps. Ils étaient dans la cellule qu'habita Savonarole, prieur du couvent de San Marco. Le guide leur montra le portrait et les reliques du martyr. Qu'est-ce que vous pouviez me trouver de bien ce jour-là? Il ne faisait pas clair. Je vous voyais marcher. C'est par les mouvements que les formes parlent. Chacun de vos pas me disait le secret de votre beauté précise et charmante. Oh, je n'ai jamais eu d'imagination discrète à votre égard. Je n'osais vous parler. En vous voyant, j'avais peur. J'étais épouvanté devant celle qui pouvait tout pour moi. Présent, je vous adorais en tremblant. Loin de vous, j'avais toutes les impiétés du désir. Je ne m'en doutais pas. Mais vous rappelez-vous la première fois que nous nous sommes venus, quand Paul Vance vous a présenté? Vous étiez assis à côté du paravent. Vous regardiez les miniatures qui sont accrochées et vous m'avez dit: cette dame, peinte par Sicardi, ressemble à la mère d'André Chénier. Et moi, je vous ai répondu, c'est l'aïeul de mon mari. Comment était la mère d'André Chénier? Et vous avez dit, on a son portrait, une levantine affalée. Il se défendit d'avoir parlé d'une façon si impertinente. Mais si, je me rappelle mieux que vous. Ils allaient dans le blanc silence du couvent. Ils visitèrent la cellule que le bienheureux Angelico orna de la plus suave peinture. Et là, devant la Vierge qui dans un ciel pâle reçoit de Dieu le Père la couronne immortelle, il prit Thérèse dans ses bras et lui mit un baiser sur la bouche, presque au regard de deux Anglaises qui allaient par les corridors consultant le Baedeker. Elle lui dit « Ah, nous allions oublier la cellule de Saint-Antonin. Thérèse, je souffre dans mon bonheur de tout ce qui est de vous et qui m'échappe. Je souffre de ce que vous ne viriez pas de moi seul et pour moi seul. Je voudrais vous avoir tout et vous avoir eu tout dans le passé. » Elle fit un petit mouvement d'épaule. Le passé. Mais le passé, c'est la seule réalité humaine. Tout ce qui est, est le passé. Elle leva vers lui ses yeux dont les prunelles ressemblaient à des ciels charmants, mêlés de soleil et de pluie. Bon, eh bien, je puis vous le dire, je ne me suis jamais senti vivre qu'avec vous. En rentrant à Fiesole, elle trouva une lettre brève et menaçante de Leménil. Il ne comprenait rien à son absence prolongée, à son silence. Si elle ne lui annonçait pas tout de suite son retour, il allait la retrouver. Elle lut, nullement surprise, mais accablée, de voir que tout ce qui devait arriver arrivait et que rien ne lui serait épargné de ce qu'elle avait craint. Elle pouvait encore le calmer, le rassurer. Elle n'avait qu'à lui dire qu'elle l'aimait, qu'elle retournerait bientôt à Paris, qu'il devait renoncer à l'idée folle de la rejoindre ici, que Florence était un village où il serait vu tout de suite. Mais il fallait écrire « Je t'aime ». Il fallait l'endormir avec des paroles caressantes. Mais elle n'en eut pas le courage. Elle lui laissa entrevoir la vérité. Elle s'accusa elle-même en termes enveloppés. Elle parla obscurément des âmes emportées dans le flot de la vie et du peu qu'on est sur l'océan mouvant des choses. Elle lui demanda avec une tristesse affectueuse de lui garder un beau souvenir dans un petit coin de son âme. Elle alla porter la lettre à la poste sur la place de Fiesole. Les enfants jouaient à la marelle dans le crépuscule. Elle regarda du haut de la colline la coupe élégante qui porte dans son creux comme un joyau la belle Florence. Et la paix du soir la fit tressaillir. Elle jeta la lettre dans la boîte. Seulement alors, elle eut la vision nette de ce qu'elle avait fait et de ce qui en résulterait. Chapitre 20. Sur la place de la Seigneurie, où le soleil fleuri du printemps répandait ses roses jaunes, midi sonnant dissipait la foule rustique des marchands de grains et de pâtes assemblés pour le marché. Au pied des Lancies, devant l'assemblée des statues, les glaciers ambulants avaient dressé sur des tables tendues de cartonnage rouge les petits châteaux qui portaient à leur base l'inscription « Bibite Giacciate ». Et la joie facile descendait du ciel sur la terre. Thérèse et Jacques, revenant d'une promenade matinale au jardin de Boboli, passaient devant l'illustre loggia. Thérèse regardait la Sabine de Jean de Bologne avec cette curiosité intéressée d'une femme qui examine une autre femme. Mais de Chartres ne regardait que Thérèse. Il lui dit « C'est merveilleux comme la vive lumière du jour flatte votre beauté, vous aime et caresse la nacre fine de vos joues. » « Oui, dit-elle, la lumière des bougies me durcit les traits. Je l'avais remarqué. Oh, je ne suis pas une femme du soir, malheureusement. C'est plutôt le soir que les femmes ont l'occasion de se montrer, de se plaire. » Le soir, la princesse Seniavine a un beau teint mat et doré. Au soleil, elle est jaune comme un citron. Il faut avouer qu'elle ne s'en inquiète guère. Elle n'est pas coquette. Et vous l'êtes ? Oh oui, autrefois, je l'étais pour moi, maintenant, je le suis pour vous. Elle regardait encore la Sabine qui, des bras et des reins, grande, longue et robuste, s'efforçait d'échapper à l'étreinte du Romain. N'est-ce qu'il faut qu'une femme, pour être belle, ait cette sécheresse de forme et cette longueur de membres? Je ne suis pas comme cela, moi. Il prit soin de la rassurer. Mais elle n'était pas inquiète. Elle regardait maintenant le petit château du glacier tombambulant dont les cuivres reluisaient sur une nappe de coton écarlate. Une envie subite lui était venue de manger une glace, là, debout, comme elle avait vu faire tout à l'heure à des ouvriers de la ville. Il dit « Attendez un instant !» Il se mit à courir vers la rue qui suit le côté gauche des Lanzi et disparut. Au bout d'un moment, il revint, lui tendant une petite cuillère de vermeil à demi dépouillée par le temps, et dont le manche se terminait par le lys de Florence, au calice émaillé de rouge. « C'est pour prendre votre glace, le glacier ne donne pas de cuillère. Vous aurez fallu tirer la langue. Ça aurait été très joli, mais vous n'avez pas l'habitude. » Elle reconnut la cuillère, un petit joyau qu'elle avait remarqué la veille dans la vitrine d'un antiquaire voisin des Lanzi. Ils étaient heureux, ils répandaient leur joie pleine et simple en paroles légères qui n'avaient point de sens. Et ils riaient quand le Florentin leur tenait, avec une mimique sobre et puissante, des propos renouvelés des vieux conteurs italiens. Elle s'amusait du jeu parfait de ce visage antique et jovial. Mais elle ne comprenait pas toujours les paroles. Elle demandait à Jacques « Qu'est-ce qu'il a dit ? » ?»« Vous voulez le savoir ?» Elle le voulait. « Eh bien, il a dit qu'il serait heureux si les puces de son lit étaient faites comme vous. » Quand elle eut mangé sa glace, il la pressa d'aller revoir Or Saint-Michel. C'était si près. Il traverserait la place en biais et découvrirait tout de suite le vieux joyau de pierre. Ils allèrent, ils regardèrent le Saint-Georges et le Saint-Marc de bronze. De Chartres revit sur le mur écaillé de la maison la boîte aux lettres. Il se rappela avec une exactitude douloureuse la petite main gantée qui avait jeté une lettre. Il la trouvait hideuse, cette gueule de cuivre qui avait avalé le secret de Thérèse. Il ne pouvait en détourner les yeux. Et toute sa gaieté s'en était allée. Cependant, elle s'appliquait à aimer la rude statue de l'évangéliste. C'est vrai qu'il allait honnête et franc, et que s'il parlait, il ne sortirait de sa bouche que des paroles de vérité. Il répliqua amèrement « Oh, ce n'est pas la bouche d'une femme !» Elle comprit sa pensée, et d'un ton très doux « Mon ami, pourquoi me parlez-vous ainsi? Je suis franche, moi. » « Qu'appelez-vous être franche? Vous savez qu'une femme est obligée de mentir. » Elle hésita, puis « Une femme est franche quand elle ne fait pas de mensonges inutiles. » Chapitre 21. Thérèse glissait, vêtue de gris sombre, sous les cytises en fleurs. Les buissons d'arbouses couvraient d'étoiles argentées le bord escarpé de la terrasse, et sur le penchant des coteaux, les lauriers dardaient leurs flammes odorantes. La coupe de Florence était toute fleurie. Viviane Bell allait, blanche, dans le jardin embaumé. « Vous le voyez, darling, Florence est vraiment la ville de la fleur, et ce n'est pas à tort qu'elle porte lys rouge pour emblème. C'est fête aujourd'hui, darling. »« Ah, c'est fête aujourd'hui ?»« Darling, vous ne savez pas que nous sommes au premier jour de mai, à Primavera. Vous ne vous êtes pas éveillé ce matin dans une féerie charmante ?»« Oh, darling !» Vous ne célébrez pas la fête de la fleur? Vous ne vous sentez pas joyeuse, vous qui aimez les fleurs? Car vous les aimez, my love, je le sais. Vous êtes tendre pour elles. Vous m'avez dit qu'elles éprouvaient de la joie et de la douleur, qu'elles souffraient comme nous. Ah, j'ai dit qu'elle souffrait comme nous.
Oh, vous l'avez dit.
C'est leur fête aujourd'hui. Il faut la célébrer, selon la coutume des aïeux, dans les rites consacrés par les vieux peintres.
Thérèse entendait sans comprendre. Elle froissait sous son gant la lettre qu'elle venait de recevoir, une lettre portant le timbre post-italien et ne contenant que deux lignes. « Je suis descendu cette nuit à l'hôtel de la Grande-Bretagne, Lungarno Alciaoli. Je vous attends dans la matinée numéro 18. »
« Oh, darling, vous ne savez pas ce que c'est la coutume à Florence de fêter le renouveau au 1er mai de chaque année. Mais alors, vous ne comprenez pas tout à fait ce que voulait dire le tableau de Botticelli consacré à la fête de la fleur, ce printemps délicieux et d'une joie rêveuse. Autrefois, darling, en ce premier jour de mai, toute la ville était en liesse. Les jeunes filles, vêtues d'habits de fête et couronnées d'aubépines, allaient en long cortège par le corso, sous des arcs de fleurs, et formaient des chœurs sur l'herbe nouvelle à l'abri des lauriers. Nous ferons comme elles, nous danserons dans le jardin. Ah, nous danserons dans le jardin. Oui, darling. Et je vous apprendrai des pas toscans du XVIe siècle, qui ont été retrouvés dans un manuscrit par M. Morrison, le doyen des bibliothécaires de Londres. Revenez vite, my love. Nous mettons des chapeaux de fleurs et nous dansons. Oui, chérie, nous danserons.
Et, poussant la grille, elle s'enfuit par le petit chemin, qui, raviné comme un lit de torrent, cachait ses pierres sous des buissons de roses. Elle se jeta dans la première voiture qu'elle trouva. Le cocher avait des bleuets à son chapeau et aux manches de son fouet.
Hôtel de la Grande-Bretagne, Lungarno Alciaoli.
Elle savait où c'était, Lungarno Alciaoli. Il y était allé le soir, et elle revoyait l'or déchiré du soleil sur la nappe agitée du fleuve. Puis ça avait aidé la nuit, le murmure sourd des eaux dans le silence, les paroles, les regards qui l'avaient troublé, le premier baiser de l'ami, le commencement de l'irréparable amour. Oh oui, elle se rappelait Lungarno Alciaoli et la rive du fleuve au-delà du pont vieux. Hôtel de la Grande-Bretagne, oh, elle savait, une grande façade de pierre sur le quai. C'était encore heureux puisqu'il devait venir, qu'il fût là. Venu. Il aurait tout aussi bien pu descendre à l'hôtel de ville, la ville, place Manin, où était de Chartres. C'était encore heureux qu'ils ne fussent pas porte à porte dans le même corridor. Lungarno Alciaoli. Ce mort qu'ils avaient vu passer à la course, emporté par les cagoules. Il était tranquille, lui, quelque part, dans un petit cimetière fleuri. Numéro 18. C'était une chambre nue d'hôtel avec son poêle à la mode italienne. Un jeu de brosse minutieusement étalé sur la table et l'indicateur des chemins de fer. Pas un livre, pas un journal. Il était là. Elle vit une grande souffrance sur son visage osseux, un air de fièvre. Elle en éprouva une impression grave et pénible. Il attendit un mot, un geste, mais elle restait étrangère, n'osant rien. Il lui offrit une chaise, elle l'écarta et resta debout. « Thérèse, il y a quelque chose que je ne sais pas, parlez. » Après un moment de silence, elle répondit avec une lenteur pénible.
Mon ami, quand j'étais à Paris, pourquoi êtes-vous parti?
La tristesse de l'accent, il crut, il voulut deviner un reproche affectueux. Son visage se colora, il répondit ardemment. Oh, si j'avais prévu cette partie de chasse, au fond, vous pensez bien que je m'en souciais peu. Mais vous, votre lettre, celle du 27,
où il avait le don des dates, m'a jeté dans une inquiétude horrible. Il était arrivé quelque chose à ce moment-là. Dites-moi tout.
Mon ami, je croyais que vous ne m'aimiez plus.
Mais maintenant que vous savez le contraire.
Maintenant.
Elle resta les bras tombants et les mains jointes. Puis, avec une tranquillité affectée,
« Mon Dieu, mon ami, nous nous sommes pris sans savoir. On ne sait jamais. Vous êtes jeune, plus jeune que moi, puisque nous sommes à peu près du même âge. Vous avez sans doute des projets pour l'avenir. »
Il la regarda fièrement en face. Elle continua, moins assurée.
Vos parents, eux, votre mère, vos tantes, votre oncle, le général, en ont pour vous des projets? C'est bien naturel. J'aurais pu devenir un obstacle. Il vaut mieux que je disparaisse de votre vie. Nous garderons un bon souvenir l'un de l'autre.
Elle lui tendit sa main gantée. Il croisa les bras.
Alors tu ne veux plus de moi? Tu crois que tu m'auras rendu heureux, comme pas un homme ne l'a été, et puis mis de côté, et que c'est fini comme cela? Vraiment, tu crois que tu en as fini avec moi? Mais qu'est-ce que vous venez me dire? Une liaison, cela se dénoue. On se prend, on se quitte. Eh bien non, vous n'êtes pas une personne qu'on quitte, vous. Oui, vous aviez peut-être mis en moi plus qu'on ne met d'ordinaire en pareil cas. J'étais pour vous plus qu'un amusement. Mais si je ne suis pas la femme que vous croyez, si je vous ai trompé, si je suis légère, vous savez, on l'a dit. Eh bien, si je n'ai pas été avec vous ce que je devais être.
Elle hésita et reprit d'un ton grave et pur qui contrastait avec ses paroles.
Et si, pendant que je vous appartenais, j'ai eu des entraînements, des curiosités, si je vous dis que je ne suis pas faite pour un sentiment sérieux.
Il interrompit. Tu mens?
Oui, je mens. Mais je ne mens pas bien. Je voulais gâter notre passé. J'avais tort, il est ce que vous savez, mais...
Mais?
Ah, cela je vous l'ai toujours dit. Je ne suis pas sûr. Il y a des femmes, à ce qu'on dit, qui peuvent répondre d'elles. Je vous avertis que je n'étais pas comme elles et que je ne répondais pas de moi.
Il donna de la tête à droite et à gauche, comme une bête qu'on irrite et qui hésite encore à foncer. Non mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas.
Je ne comprends rien. Parle clairement.
Clairement, entends-tu?
Il y a quelque chose entre nous, je ne sais pas quoi. Je veux le savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous le dis, mon ami. Il y a que je ne suis pas une femme sûre d'elle-même et que vous ne devriez pas compter sur moi. Non, vous ne le deviez pas. Je n'avais rien promis. Et puis, si j'avais promis, qu'est-ce que des paroles?
Ah, tu ne m'aimes plus, non? Tu ne m'aimes plus, je le vois bien. Mais tant pis pour toi, moi je t'aime. Il ne fallait pas te donner. N'espère pas te reprendre. Je t'aime et je te garde.
Alors, tu croyais te tirer d'affaire tout tranquillement.
Écoute-moi un peu.
Tu as tout fait pour que je t'aime, pour que je te sois attaché, pour que je ne puisse pas vivre sans toi. Nous avons connu ensemble des plaisirs inimaginables. Et tu n'as refusé pas ta part. Oh, on ne te prenait pas de force. Tu voulais bien. Il y a 6 semaines encore, tu ne me demandais pas mieux. Tu étais tout pour moi, j'étais tout pour toi. Il y avait des moments où nous nous quittions, savions plus si j'étais à toi ou si toi c'était moi. Et puis tu veux que je ne sache plus, que je ne te connaisse plus, que tu sois pour moi-même une étrangère, une dame qu'on rencontre dans le monde. Ha ha, tu as un bel aplomb, toi.
Voyons, est-ce que j'ai rêvé? Tes baisers, ton souffle sur mon cou, tes cris, c'est donc pas vrai? J'invente tout ça, dis. Oh, il n'y a pas de doute, tu m'aimais. Je le sens encore sur moi, ton amour. Eh bien, moi, je n'ai pas changé. Je suis ce que j'étais. Tu n'as rien à me reprocher. Je ne t'ai pas trompé avec d'autres femmes. Ce n'est pas pour m'en faire un mérite, je n'aurais pas pu. Quand on t'a connu, on trouve au plus joli un goût fade. Je n'ai jamais eu l'idée de te tromper. Je me suis toujours conduit envers vous en galant homme. Et pourquoi ne m'aimeriez-vous plus? Mais réponds-moi, parle donc. Dis que tu m'aimes encore, dis-le puisque c'est vrai. Viens, viens, Thérèse. Tu sentiras tout de suite que tu m'aimes comme tu m'aimais autrefois, dans le petit nid de la rue Spontini où nous avons été si heureux. Viens! Il se jeta sur elle, ardent, les bras avides. Elle, les yeux pleins d'effroi, le repoussa avec une horreur glaciale. Il comprit, s'arrêta et dit « Ah, toi un amant !» Elle abaissa lentement la tête et puis la releva, grave et muette. Alors il la frappa à la poitrine, à l'épaule, au visage. Et aussitôt il recula de honte. Il baissait les yeux et se taisait. Les doigts aux lèvres et se rongeant les ongles, il s'aperçut que sa main s'était déchirée à une épingle du corsage et saignait. Il se jeta dans un fauteuil, tira son mouchoir pour essuyer le sang et demeura comme indifférent et sans pensée. Elle, adossée à la porte, la tête droite, pâle, le regard vague, détachait sa voilette déchirée et redressait son chapeau avec un soin instinctif. Au petit bruit, naguère délicieux, que faisaient autour d'elle les étoffes froissées, il tressaillit, la regarda et redevint furieux. « Qui est-ce? Je veux le savoir !» Elle ne bougea pas. Son visage blanc portait la marque brûlante du poing qu'il avait frappé. Elle répondit, et avec une fermeté douce, « Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Ne me demandez plus rien. Ce serait inutile. » Il la regarda d'un regard cruel qu'elle ne lui connaissait pas. « Oh, ne me dites pas son nom, vous n'aurez pas de peine à le dérouver. » Elle se taisait, attristée pour lui, inquiète pour un autre, pleine d'angoisse et d'alarme, et pourtant sans regret, sans amertume, sans affliction, ayant son âme ailleurs. Il eut comme un vague sentiment de ce qui se passait en elle. Dans sa colère de la voir si douce et si sereine, de la trouver belle autrement qu'il ne l'avait eue, et belle pour un autre, il eut envie de la tuer et lui cria « Va-t'en, va-t'en !» Puis, accablé par cet effort de haine qui ne lui était pas naturel, il se prit la tête dans les mains et se mit à sangloter. Cette douleur la toucha, lui rendit l'espoir de le calmer, d'adoucir les adieux. Elle se fit l'illusion qu'elle pouvait peut-être le consoler d'elle. Amicale et confiante, elle vint s'asseoir près de lui. « Mon ami, blâmez-moi. Oui, je suis blâmable, et plus encore pitoyable. Méprisez-moi, si vous voulez, et si l'on peut mépriser une malheureuse créature qui est le jouet de la vie. Enfin, jugez-moi comme vous voudrez. Mais gardez-moi un peu d'amitié dans votre colère, un souvenir aigre et doux, comme ces temps d'automne où il y a du soleil et de la bise. C'est ce que je mérite. Ne soyez pas dur à la visiteuse agréable et frivole qui passa à travers votre vie. Faites-moi des adieux comme à une voyageuse qui s'en va, on ne sait où, et qui est triste. Il y a toujours tant de tristesse à partir. Vous étiez irrité contre moi tout à l'heure. Oh, je ne vous le reproche pas. J'en souffre seulement. Gardez-moi un peu de sympathie. Qui sait, l'avenir est toujours inconnu. Il est bien vague ou bien obscur devant moi. Que je puisse me dire que j'ai été bonne, simple, franche avec vous, et que vous ne l'avez pas oublié. Avec le temps, vous comprendrez, vous pardonnerez. Dès aujourd'hui, ayez un peu de pitié. Il ne l'écoutait pas, apaisé seulement par la caresse de cette voix où les sons coulaient limpides et clairs. Et il dit en sursaut, « Mais vous ne l'aimez pas, c'est moi que vous aimez alors !» Elle hésita, glissa. « Ah, dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est une chose qui n'est pas facile pour une femme, au moins pour moi. Car je ne sais pas comment font les autres, mais la vie n'est pas clémente. On est jeté, poussé, ballotté. » Il la regarda, très calme. Il lui était venu une idée. Il avait pris une résolution. C'était simple. Il pardonnait, il oubliait, pourvu qu'il lui revint tout de suite. « Thérèse, vous ne l'aimez pas. » C'était une erreur, un moment d'oubli, une chose horrible et stupide que vous avez faite, par faiblesse, par surprise, peut-être de dépit. Jurez-moi que vous ne le reverrez plus. » Il lui prit le bras. « Jurez-le-moi. » Elle se taisait, les dents serrées, le visage sombre. Il lui tordit le poignet. Elle cria. « Mais vous me faites mal. » Cependant, il suivait son dessein. Il la traîna jusqu'à la table sur laquelle se trouvait près du jeu de brosse une bouteille d'encre et quelques feuilles de papier à lettres avec une grande vignette bleue représentant la façade de l'hôtel aux fenêtres innombrables. « Écrivez ce que je vais vous dicter, je ferai porter la lettre. » Et comme elle résistait, il la fit tomber à genoux. Fière et tranquille, elle dit « Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que vous voulez le savoir. Eh bien, parce que je l'aime. » Brusquement, il lui lâcha le bras. S'il avait eu son revolver sous la main, peut-être l'aurait-il tué. Mais presque aussitôt, sa fureur s'était mouillée de tristesse. Et maintenant, désespéré, c'est lui qui aurait bien voulu mourir. Est-ce vrai ce que vous dites là? Est-ce donc possible? Est-ce donc vrai? Est-ce que je sais, moi? Est-ce que je peux dire? Est-ce que je comprends encore? Est-ce que j'ai encore une idée, un sentiment, une lueur de quoi que ce soit? Est-ce que... Avec un peu d'effort, elle ajouta... Est-ce que je suis dans ce moment à autre chose qu'à ma tristesse et à votre désespoir? Mais tu l'aimes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais comment est-il pour que vous l'aimiez? Il était stupide de surprise, dans un abîme d'étonnement. Mais ce qu'elle avait dit les avait pourtant séparés. Il n'osait plus la manier brutalement, la saisir, la frapper, la pétrir, comme sa chose mauvaise et rétive, mais sa chose à lui. Il répétait, « Vous l'aimez, vous l'aimez. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous l'aimiez? Je vous connais, je ne vous ai pas dit toutes les fois que vos idées me choquaient. Je parie que ce n'est même pas un homme du monde. Et vous croyez qu'il vous aime? Vous le croyez? Eh bien, vous vous trompez, il ne vous aime pas. Il est flatté, tout simplement. Il vous lâchera à la première occasion. Quand il vous aura assez compromise, il vous enverra promener. Et vous roulerez dans la galanterie. L'année prochaine, on dira de vous, elle traîne avec tout le monde. Cela me contrarie pour votre père, qui est un de mes amis, et qui saura votre conduite, car n'espérez pas le tromper, lui. » Elle écoutait, humiliée, mais consolée, songeant à ce qu'elle aurait souffert de le trouver généreux. Dans sa simplicité, il la méprisait sincèrement. Ce mépris le soulageait. Il s'en mettait plein la gorge. Mais comment la chose s'est-elle faite? Vous pouvez bien me le dire à moi. Elle haussa les épaules avec tant de pitié qu'il n'osa plus continuer sur ce ton. Il en devint haineux. « Est-ce que vous vous imaginez que je vous aiderai à sauver les apparences, que je retournerai chez vous et que je continuerai à fréquenter votre mari, que je tiendrai le chandelier ?»« Je pense que vous ferez ce qu'un galant homme doit faire. Je ne vous demande rien. J'aurais voulu conserver de vous le souvenir d'un excellent ami. Je croyais que vous seriez indulgent et bon pour moi. » Ce n'est pas possible. Je vois bien qu'on ne se quitte jamais bien. Plus tard, vous me jugerez mieux. Adieu. » Il la regarda. Son visage maintenant exprimait plus de douleur que de colère. Elle ne lui avait jamais vu ses yeux secs et cernés, ses tempes arides sous des cheveux rares. Il semblait qu'il eût vieilli en une heure. « J'aime mieux vous avertir. Il me sera impossible de vous revoir. Vous n'êtes pas une femme qu'on peut rencontrer dans le monde quand on l'a eue et qu'on ne l'a plus. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez un poison à vous que vous m'avez donné et que je sens, moi, dans mes veines, partout. Mais pourquoi vous ai-je connu ?» Elle le regarda avec bonté. Adieu, et dites-vous que je ne vaux pas des regrets si cuisants. Alors, quand il vit qu'elle posait la main sur la clé de la porte, quand il sentit à ce geste qu'il allait la perdre, qu'il ne l'aurait plus jamais, il poussa un cri et s'élança. Il ne se rappelait plus rien. Il lui restait l'étourdissement d'un grand malheur accompli, d'un deuil irréparable. Et au fond de sa stupeur, un désir montait. Il voulait la reprendre une fois encore, celle qui s'en allait et ne reviendrait plus. Il la tira à lui, il la voulait simplement de toute la force de sa volonté animale. Elle lui résista de toute sa volonté présente, libre et qui veillait. Elle se dégagea, froissée, arrachée, déchirée, n'ayant pas même eu peur. Il comprit que tout serait inutile. Il retrouva la suite oubliée des choses et qu'elle n'était plus à lui parce qu'elle était à un autre. Sa souffrance revenue, il lui cracha des injures et la poussa dehors. Elle resta un moment dans le corridor, attendant par fierté un mot, un regard, digne d'être mis sur leur amour passé. Mais il cria encore « Va-t'en !» et poussa violemment la porte. Via Alfieri, elle revit le pavillon au fond de la cour où croissait l'herbe pâle. Elle le trouva tranquille et muet, fidèle avec ses chèvres et ses nymphes, aux amoureux du temps de la grande-duchesse, Elisa. Elle se sentit de l'abord échappée au monde douloureux et brutal et transportée dans des âges où elle n'avait pas connu la tristesse de vivre. Au pied de l'escalier, dont les degrés étaient jonchés de roses, de Chartres l'attendait. Elle se jeta dans ses bras et s'y abandonna. Il la porta inerte comme la dépouille précieuse de celle devant qui il avait pâli et tremblé. Elle goûtait, les paupières mi-closes, l'humiliation superbe d'être une belle proie. Sa fatigue, sa tristesse, ses dégoûts de la journée, le souvenir de la violence, sa liberté reprise, le besoin d'oublier, un reste de peur, tout avivait et irritait sa tendresse. Renversée sur le lit, elle noua ses bras autour du cou de son ami. Quand ils revinrent à eux, ils eurent des gaietés d'enfants. Ils riaient, disaient des riens, jouaient, mordaient aux limons, aux oranges, aux pastèques amassées près d'eux sur des assiettes peintes. n'ayant gardé que la fine chemise rose qui, glissant en écharpe sur l'épaule, découvrait un sein et voilait l'autre, dont la pointe rougissait à travers, elle jouissait de sa chair offerte. Ses lèvres s'entr'ouvraient sur l'éclair de ses dents humides. Elle demandait, avec une coquette inquiétude, s'il n'était pas déçu après le rêve savant qu'il avait fait d'elle. Dans les lueurs caressantes du jour qu'il avait ménagé, il la contemplait avec une joie jeune. Il lui donnait des louanges et des baisers. Il s'oubliait en caresses mignardes, en querelles amicales, en regards heureux. Puis, subitement grave, les yeux assombris, les lèvres serrées, en proie à cette colère sacrée qui fait que l'amour ressemble à la haine, il se reprenait, se mêlait, cherchait l'abîme. Et elle rouvrait ses yeux noyés et souriait, la tête sur l'oreiller, les cheveux épars, avec une douceur de convalescente. Il lui demanda d'où lui venait cette petite marque rouge sur la tempe. Elle répondit qu'elle ne savait plus et que ce n'était rien. Elle mentait à peine et d'un cœur ouvert. Vraiment, elle ne savait plus. Ils se rappelaient leur belle et courte histoire, toute leur vie, qui datait du jour où ils s'étaient rencontrés. « Vous savez, sur la terrasse, le lendemain de votre arrivée, vous me disiez des paroles vagues et sans suite. J'ai deviné que vous m'aimiez. Oh, j'avais peur de vous paraître stupide. Vous l'étiez un peu. C'était mon triomphe. Je commençais à m'impatienter de vous voir si peu troublé près de moi. Je vous ai aimé avant que vous m'aimiez. Oh, je n'en rougis pas. » Il lui versa entre les dents une goutte d'astis mousseux. Mais il y avait sur le guéridon une bouteille de vin de Trasimène. Elle voulut y goûter, en souvenir de ce lac qu'elle avait vu désolé et beau, le soir dans sa coupe ébréchée d'opale. C'était lors de son premier voyage en Italie, où il y avait de cela 6 ans. Il a cœur et là d'avoir découvert sans lui la beauté des choses. Elle lui dit, « Mais sans toi, je ne savais rien voir. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?» Il lui ferma la bouche d'un baiser pesant. Et quand elle revint à elle, brisée de joie, la chair heureuse et lasse, elle lui cria, « Oui, je t'aime. Oh oui, je n'ai jamais aimé que toi. »